Bonsoir, heureux de vous accueillir sur le plateau des informés de France Info, à la radio, à la télévision, sur le canal 27 de la TNT, sur les réseaux sociaux, sur franceinfo.fr. Et pour débattre de l'actualité ce samedi soir, j'accueille avec plaisir Jean-Louis Fournier. Bonsoir.
Bonsoir.
Auteur, réalisateur, notamment de La Minute de Monsieur Cyclopette avec votre ami Pierre Desproges. Auteur de nombreux livres dont On va où papa, prix Femina 2008. Auteur de la pièce en ce moment, Le CV de Dieu, pièce qui est à l'affiche du Théâtre de la Pépinière à Paris avec Jean-François Balmer dans le rôle de Dieu et Didier Bénureau, on aura l'occasion d'en reparler dans ses informés. À vos côtés, j'accueille aussi avec plaisir Roger Paul-Droit, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, écrivain, vous publiez Et si Platon revenait, c'est aux éditions Albin Michel, une promenade dans la cité idéale du père de la philosophie, où il est question, entre autres, hein, vous nous expliquerez pourquoi, de Teddy Rainer, de Donald Trump, d'Emmanuel Macron, mais aussi de la COP21. J'accueille aussi avec plaisir sur ce plateau des informés. Bonsoir. Jean Jouzel.
Bonsoir.
Climatologue, vice-président du GIEC. Vous avez notamment co-signé l'an dernier, pour éviter le chaos climatique et financier, une solution scandaleusement simple aux éditions Odile Jacob. Et puis à vos côtés, bonsoir Thierry Vélov.
Bonsoir.
Président de l'agence de communication Welcome. Vous avez notamment signé le procès de la communication. Alors, dans ces informés de France Info, on va se préoccuper ce soir de l'état de notre planète avec nos invités. Une Terre qui ne tourne plus rond, un été trop chaud, des ouragans, des cyclones de plus en plus violents. Où en sommes-nous de notre conscience écologique? Le tout dans un climat politique toujours plus tendu. Trump, Poutine, Kim Jong-un, Theresa May, Emmanuel Macron. Je vous demanderai également de réfléchir à notre monde 2.0. Est-il encore possible de vivre sans écran, d'ouvrir un livre, un journal, d'écouter la radio, sans être constamment branché artificiellement aux autres? Et puis, comme tous les samedis soirs, nous ferons un point sur les matchs de Ligue 1 de la 6e journée, car c'est aussi l'actualité de la soirée. Soyez les bienvenus dans ces informés de France Info. Alors, pour commencer ce débat, vous en pensez quoi de ces opérations coup de poing médiatiques en ce moment contre les bouchers, contre les poissonniers, contre les fromagers? Officiellement, ce sont des antispécistes qui dénoncent, je cite, le zoocide que représentent selon eux les élevages, le commerce et la consommation de la viande. Roger Paul-Droit.
Il me semble qu'il y a là quelque chose qui est une forme finalement de fanatisme au nom des bons sentiments et de la vertu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamentalement juste dans l'idée de combattre la souffrance animale, de ne pas vouloir que l'on torture des êtres vivants. Vous savez, le philosophe Bentham, qui est en anglais, en 1789, sans rapport avec la Révolution française, mais la même année, il dit la question, en parlant des animaux, elle n'est pas est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils parlent, elle est-ce qu'ils sentent. Voilà, c'est parce qu'ils se sont des êtres vivants sensibles comme nous que nous n'avons évidemment pas le droit de les faire souffrir. Mais pas le droit de les faire souffrir, ça ne veut pas dire pas le droit de les manger.
Alors Jean Jouzel, Mathieu Ricard, dans son plaidoyer pour les animaux, disait « Nous tuons chaque année 60 milliards d'animaux sur Terre, 1000 milliards d'animaux marins pour notre consommation, une surconsommation qui aggrave la faim dans le monde, qui provoque des déséquilibres écologiques. »
Oui, donc il y a deux choses. Oui, c'est vrai pour... On peut parler de la, disons, de la pêche qui est vraiment faite dans certaines régions avec un certain non-sens. Mais bon, pour revenir à la question posée, je pense que quand même le bien-être animal est quelque chose d'important, mais ça ne justifie pas du tout, disons, ce qui est fait par les antispécistes, c'est très clair, loin de là. Donc voilà, oui, je pense que c'est quand même un véritable problème environnemental. Ce que dit Mathieu Ricard, effectivement, est-ce qu'on est capable de... La question qu'on doit se poser, est-ce qu'on est capable, disons, au niveau de cette planète, effectivement, de continuer à nous alimenter, même en admettant qu'on puisse le faire sur, disons, sur les produits de la mer, sur les produits de la terre. Il y a quand même des questions qui sont posées aussi. Mais, je crois que cette sécurité alimentaire peut être d'ailleurs mise en cause par ce dont nous allons parler ce soir. Le réchauffement climatique, c'est un des problèmes de certaines régions, c'est clair.
Jean-Louis Fournier, vous qui aimez les mots, lorsque l'on entend des accusations, les bouchers, les poissonniers sont qualifiés de meurtriers. Vous qui aimez les mots, jouez avec les mots, qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis sidéré de ce genre d'attitude. Moi, j'adore les vaches. J'ai écrit une série pour les enfants, ça s'appelle La Noiraude.
Absolument.
Je suis vraiment très près des vaches. Mais si vous voulez, je trouve ça absolument. Et j'ai lu Finkielkraut là, qui parle à un moment des animaux. Et par exemple, si on se passe de la viande des vaches pour se nourrir, si on se passe du lait des vaches pour faire du fromage, les vaches vont devenir inutiles. Donc elles vont disparaître parce que on va pas les garder comme animaux de compagnie, les vaches. Donc elles ont une utilité. Enfin, moi, je trouve ça grotesque. Moi, les histoires d'aller casser des bouchers. Tout ça.
Tiens, Vélov, vous qui êtes un communicant, est-ce que ce genre d'opération, ça sert la cause animale ou ça la dessert?
Ça la dessert très certainement. Je veux dire, on a parlé de vertu, effectivement. C'est-à-dire que le fond des sentiments est bon, mais au nom de bons sentiments, on arrive à des excès et tout ce qui est excessif est insignifiant. Et si je devais conseiller ces associations, je leur dirais effectivement qu'ils ont des combats justes qui sont très recevables par la population française.
On doit interpeller d'une certaine façon.
Oui, mais il y a des combats justes. Je veux dire, ce qui se passe dans les abattoirs, effectivement, c'est très très contestable. Écraser des poussins pour faire pour manger des nuggets, oui. Effectivement, c'est très contestable. Il y a des combats qui sont beaucoup plus, à mon avis, intéressants et qui devraient être celui de ces associations.
Roger, pas le droit.
Je crois qu'on mélange aussi souvent trop de choses. Qu'il faille réduire la souffrance animale, c'est sûr. Qu'il faille réduire nos consommations de viande, de poisson, c'est sûr aussi. Mais à partir du fait, il ne s'agit pas de confondre ces éléments-là, qui me paraissent justes et objectifs, avec une forme de haine de l'humanité. Ce qui est en cause, là, c'est finalement que on défend les animaux, mais au nom, me semble-t-il, d'une forme de détestation de l'espèce humaine, de manière de vouloir annuler complètement toutes ces spécificités. Or, bien sûr, nous sommes des animaux, mais nous ne le sommes plus tout à fait, travaillés par le langage, transformés par la pensée, et cela nous donne des devoirs envers les autres formes de vie, mais sans vouloir tout supprimer.
On va continuer à parler de la cause environnementale, grâce à vous quatre, sur l'aspect communication, sur l'aspect scientifique, avec vous, l'expert, mais avec votre regard d'écrivain, Jean-Louis Fournier, avec le regard du philosophe, Roger Paul-Droit, dans un instant sur France Info, les informés continuent, mais avant cela, à 20h10, l'essentiel de l'info, c'est avec vous, Emmanuel Grabé.
L'Iran pointe du doigt les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite, pays commanditaire selon Téhéran, de l'attaque qui a fait au moins 29 morts à Ahvaz au sud-ouest du pays ce matin. Des assaillants vêtus en soldats ont ouvert le feu contre un défilé militaire et la foule qui y assistait. Attaque pourtant revendiquée dans la foulée par le groupe État islamique. Un rassemblement d'ultra-gauche qui dégénère à Angers cet après-midi. Des violences en toute fin de manifestation attribuées à la mouvance des Black Blocs. Ils s'en sont pris à des vitrines de banques, ils ont tenté d'en incendier une. La préfecture de Maine-et-Loire annonce 6 interpellations mais pas de blessés et précise qu'une très grande partie du défilé s'était déroulée sans incident. Les transports en commun parisiens de moins en moins sûrs, c'est ce qui ressort d'un rapport interne de la RATP. Il établit que les violences contre les voyageurs ont bondi de 20% sur un an en 2017 et même de 24% contre les agents. Des chiffres toutefois inférieurs à ceux de 2012 et qui se stabilisent en 2018 selon la compagnie. Des retards pendant 2h30 et des difficultés pour enregistrer et acheminer les bagages. L'aéroport d'Orly, frappé ce matin par une panne électrique. La situation est revenue à la normale en milieu de matinée. Paris Aéroport présente ses excuses aux voyageurs et va prendre contact avec RTE, le fournisseur d'électricité, pour connaître l'origine de cette panne. Et puis Lille monte provisoirement à la deuxième place du classement de Ligue 1. Les nordistes se sont imposés 2-1 à domicile face à Nantes cet après-midi. 5 rencontres, toujours en football, ont débuté il y a une dizaine de minutes, notamment Montpellier-Nice, Reims-Dijon et Angers-Toulouse.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Alors depuis le 28 août dernier, la démission surprise de Nicolas Hulot, c'était un matin sur l'antenne de France Inter. Mais on n'a peut-être jamais autant parlé du climat chez nous. Nicolas Hulot claque la porte en dénonçant une politique des petits pas, une situation qui nous dépasse un peu partout sur la planète. Eh bien, il y a des mobilisations, il y a eu des marches, il y a des mobilisations d'opposants pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, pour empêcher la construction d'une rocade autour de Strasbourg, pour empêcher la construction d'un centre de loisirs à Roibon en Isère. Question Jean Jouzel, vous qui êtes climatologue, est-ce que nous sommes en train de vivre un changement d'époque? Est-ce que les citoyens s'emparent enfin de l'écologie, de la cause environnementale? Est-ce que vous le sentez?
Oui, je le sens, mais ce n'est pas la question. C'est indispensable que nous nous emparions collectivement de cette cause, parce que Bon, bien sûr, c'est avant tout, ce sont avant tout des décisions politiques. C'est très clair au plus haut niveau. On a vu l'accord de Paris, on voit la loi sur la transition énergétique, sur la croissance verte. Il faut que les politiques s'impliquent, mais il faut que nous tous, collectivement, nous prenions aussi notre part dans cette... il y a bien sûr la lutte contre le réchauffement climatique, il y a aussi tous les problèmes de préservation de la biodiversité, tous ces problèmes de santé et environnement qui sont quand même au cœur du développement de nos sociétés, je pense. Donc c'est très sain que... des personnes s'engagent réellement, et c'est important, me semble-t-il.
Thierry Vella, vous le communiquant, président de l'agence de communication Welcome, lorsque l'on entend l'opinion publique parler maintenant de glyphosate, de pesticides, de déforestation, de réchauffement climatique, est-ce que vous vous dites, vous aussi, que la cause environnementale, c'est l'affaire de tous, et ça n'est plus simplement l'affaire de quelques illuminés les écolos du Larzac des années 70 ? Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est une très bonne nouvelle. Enfin, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Il faut savoir que les entreprises se sont saisies du sujet depuis assez longtemps. Ils ont ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, qui traite du développement durable dans les entreprises. Et c'est une bonne nouvelle que la population, enfin le peuple français s'en préoccupe, et pas seulement français, mais international. Je voudrais revenir une minute sur la démission de Nicolas Hulot, qui était quand même un événement de communication important. C'est la première fois qu'un ministre donne sa démission directe dans cette maison là, et surtout qu'il le fasse avec ce qui nous est apparu, en tout cas à moi communiquant, comme étant un acte de sincérité. Beaucoup de gens se sont demandé, mais est-ce que finalement il n'a pas joué ? Et il a dit une chose qui était très importante. Donc déjà, il a dit, il est en conflit de valeurs entre ses valeurs personnelles et puis la loyauté de ce qu'il disait à l'antenne. Et finalement, il a dit une chose très importante. Il a dit, mais moi, je peux rien faire si je suis seul, un petit peu ce que vous disiez là. Je peux rien faire si je suis seul, si j'ai personne derrière. J'ai pas grand poids vis-à-vis des politiques. Un politique, un homme d'affaires, ça compte en argent. Un homme politique, ça compte en voix. Si je suis tout seul, je vais pas pouvoir faire grand chose. Et je pense que ça a été un déclic. C'est ce qui a provoqué cette prise de conscience. Et j'ai l'impression que, aujourd'hui, les gens sont prêts à se mobiliser. Maintenant, faudra voir effectivement la suite. Faudra voir s'ils vont continuer à se mobiliser. Faudra voir si, le nouveau ministre François de Rugy va effectivement agir. Et puis, faudra voir si Emmanuel Macron, va sortir d'une position un petit peu incantatoire pour aller effectivement dans les actes.
Jean-Louis Fournier, vous qui êtes auteur, également humoriste, vous présentez en ce moment une pièce au Théâtre de la Pépinière à Paris, avec dans le rôle de Dieu Jean-François Balmer, dans le rôle d'un DRH Didier Bénureau. Dieu, on va reprendre vos propos, il s'emmerde tellement puisqu'il est immortel qu'il revient sur Terre et il constate, et on lui fait constater la beauté de ce qu'il a créé, mais aussi les dégâts, les ravages de l'homme sur Terre.
Il est très en colère contre les hommes, parce que, si vous voulez, c'est un peu comme quand on va dans les toilettes, vous devez laisser cet endroit aussi propre que vous l'avez trouvé en arrivant.
C'est un dieu écolo.
C'est pas ce qu'on est en train de faire actuellement. On est en train de... Les hommes, ils salissent tout. On a l'impression que c'est le plaisir de salir, d'abîmer, et tout ça. Et Dieu, il a quand même fait quelques belles choses. C'est superbe, la nature. Et tout d'un coup, il voit ça... Quand on voit cette espèce de cette nappe de plastique là qui fait quatre fois la France, trois fois la France, c'est sidérant de penser des choses comme ça. Et vous regardez les fonds de la Méditerranée, les poissons qui se créent des chemins entre des sacs de poubelles et des choses comme ça. C'est.
Vous avez écrit un dieu écolo volontairement ?
Ben, si vous voulez, moi je me suis mis dans la peau de Dieu. c'est pas évident, mais je me suis dit, si j'avais fait un beau cadeau comme ça aux hommes, leur offrir la nature, une terre vierge et tout ça, et puis de voir un petit peu, ils se servent de la terre pour en faire une déchetterie et un dépôt d'ordures, j'aurais vraiment envie de me foutre en colère, de faire de l'orage.
Oh, j'ai pas le droit. Platon, il en pense quoi de l'environnement ? J'ai noté dans votre livre, Platon admet que le climat terrestre peut profondément changer, mais que les causes de ce changement ne sont pas humaines à ses yeux.
Oui, parce que ça, c'est une chose que l'on ne sait pas assez. Dans un de ses derniers livres, le dernier probablement, Les Lois, Platon dit que le climat de la Terre a changé au cours des millénaires et des générations plusieurs fois, en provoquant des cataclysmes, des changements profonds.
Là, Jean Jouzel ne peut être que d'accord avec vous.
Voilà. Oui, bien sûr, il y a eu des changements aux échelles de temps. bien sûr, dans cette période et bien avant. Et Platon avait quand même bien le, disons, la connaissance ou le sentiment de ces changements climatiques, tout à fait.
Sauf que, bien évidemment, ce qu'il ignore tout à fait, qui n'est pas dans son champ de vision, c'est la possibilité que ce soit l'activité humaine qui impacte le climat et qui vienne perturber les équilibres terrestres. Ça, c'est tout à fait hors champ de la tête des Grecs. Alors, j'imagine dans ce livre de prendre Platon depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ et de l'emmener en 2018, aussi bien sur les scènes d'attentats, les migrants, à la COP21 aussi.
Il parle de Teddy Riner aussi.
Voilà, mais aussi parce que Platon, ça a été un champion de lutte et il a remporté des titres aux Jeux Olympiques, ce que l'on ne sait pas. Platon veut dire le large. C'est le balèze, son nom. Il s'appelait Aristoclès, Platone, c'est un surnom, ça veut dire celui de le large, et pas le large du front ou des idées, comme certains le pensent, c'est les pectoraux. Il a été champion olympique, il s'est vraiment entraîné, et donc je crois que quand il rencontre Teddy Riner, ils ont des choses à se dire, pas seulement sportifs, mais l'idée qu'il s'agit aussi de déséquilibrer l'adversaire. Et la philosophie, c'est aussi un sport de combat, c'est-à-dire c'est aussi une manière d'essayer... comme ça, de désarçonner.
Pour en revenir à l'activité de l'homme sur notre planète, Jean Jouzel, on a vécu cette année, cet été qui se termine, cette nuit, un été 2018, le deuxième plus chaud en France depuis 1959. Et on nous dit qu'en Île-de-France, si ça continue comme ça, ça pourrait augmenter de 4 degrés à l'horizon 2100.
Oui, bien sûr, et augmenter de 4 degrés en 2100, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est la température moyenne. Mais quand on parle des records de température, des canicules, ça peut augmenter deux fois plus vite que n'augmente cette température moyenne. Et en 2100, on pourrait très bien avoir en Île-de-France des températures records ponctuellement, hein, qui seraient supérieures à 50 degrés. Quant à l'été moyen, puisqu'on termine l'été, quelques chiffres, l'été moyen de 2003 était 3 degrés plus chaud qu'un été de référence du XXe siècle. Et là, on pourrait aller dans la deuxième partie du XXe siècle, du XXIe siècle, à des étés 6 à 8 degrés plus chauds qu'il n'était au XXe siècle.
Autre chiffre qui est tombé cet après-midi, autre statistique, le pic d'humidité de Bigorre qui culmine à 2800 mètres. Cela fait maintenant 100 jours qu'il n'y a pas eu de température négative.
Oui. Donc ça, c'est aussi exceptionnel. Ce sont bien sûr, localement, chacun regarde. Effectivement, il y a des records qui sont battus. Dans ce cas-là, il y a eu des records battus de température. Et c'est normal que dans un monde qui se réchauffe en moyenne, eh bien, chaque année, il y aura de plus en plus de records de température qui seront battus ici ou là. Et dans ce cas-là, c'est très marquant pour le pic du midi, effectivement.
On va continuer à débattre des questions environnementales, mais pas seulement, puisqu'il y a du sport, il y a du football, des matchs ont commencé à 20h. On voit ça dans un instant, juste après le rappel de l'info à 20h20, avec vous, Emmanuel Grabé.
Débattu autour de Strasbourg aujourd'hui, dont une à Schiltigheim qui s'est poursuivie jusqu'en début de soirée. Plusieurs dizaines de personnes mobilisées pour retrouver Sophie Le Tan, cette étudiante de 20 ans portée disparue depuis 15 jours maintenant. Le principal suspect dans cette affaire, mis en examen, refuse pour le moment de répondre aux questions des enquêteurs. Une manifestation de soutien aux salariés de l'usine Ford de Blanquefort, près de 500 personnes dans les rues de Bordeaux aujourd'hui. Dans le cortège, des salariés du groupe venus de toute l'Europe, objectif, adresser un message fort à la direction de Ford Europe qui prépare, selon eux, des restructurations dans d'autres usines. Les deux dernières lignes de train de nuit, Paris-Briançon et Paris-la-Tour-de-Carole, seront maintenues au-delà de 2020. Elles vont même être rénovées, annonce aujourd'hui de la ministre des Transports. L'État va y consacrer 30 millions d'euros, 20 subventions à la SNCF, 10 pour la réfection des rames dès l'an prochain. Un bon accord sur le Brexit est toujours possible. La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, en était convaincue ce matin sur France Info. Principal objectif des négociations en cours, selon elle, éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. C'est le seul point de contact terrestre entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et puis, décidément, Perpignan n'y arrive pas en top 14. Le match entre les deux promus a tourné à l'avantage de Grenoble, 31 à 22. À noter aussi cet après-midi, la première défaite de la saison pour Clermont-Ferrand, vaincu 23 à 19 sur la pelouse de Bordeaux-Bègles.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
Et dans ces informés de France Info, on fait une pause football rapide pour faire un point sur les matchs de la 6e journée de Ligue 1 qui ont commencé à 20h avec vous, Fabrice Hawking, pour la rencontre Saint-Étienne-Caen. Le temps et puis les buteurs s'il y en a.
Oui, pour le moment, 0-0 entre Saint-Étienne et Caen. Coup dur hein, pour les Canets avec la sortie sur blessure de Romain Genevoix remplacé par Ismaël Diomandé. Les Stéphanois ont le ballon pour l'instant, mais ils ont du mal, c'est vrai, à marquer dans une grosse ambiance. 0-0.
Reims, Dijon avec vous, Florent Ferraud.
Oui, toujours 23 minutes de jeu ici au stade Auguste Delon, toujours 0-0 ici aussi, des occasions de part et d'autre. Laurent Simon côté Dijonais à la 8e minute de jeu et c'est Younis Abdelhamid côté Rémois qui s'aurait procuré deux têtes, mais toujours 0-0 entre les deux équipes.
Voilà, et sur les autres terrains de Ligue 1, c'est simple, pas de but, 0-0. Alors on va continuer à débattre de l'environnement avec vous quatre messieurs. Est-ce que notre économie libérale nous conduit forcément à un désastre écologique? Tiens, j'en appelle au président de l'agence de communication, Welcome Thierry Velloff.
Théoriquement, non. En tout cas, pratiquement, effectivement, on peut se poser la question. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a une opposition, en tout cas soulignée par Nicolas Hulot, qui nous dit clairement, j'essaye de faire avancer les dossiers, mais j'ai en face de moi des gens qui ont des objectifs financiers, des objectifs économiques, et qui m'empêchent d'avancer. Et on se demande quel est le vrai ministre de l'écologie en France. Donc, c'est en tout cas pratiquement aujourd'hui opposé. Ça ne devrait pas l'être. Je crois qu'il est possible d'avoir une politique libérale d'un côté et d'autre côté socialement et sociétalement bonne.
Là, j'en appelle à Jean Jouzel, oui. L'expert.
Sur ce point, oui, enfin moi je pense que c'est très difficile de réconcilier la lutte contre le réchauffement climatique et les règles de l'OMC, qui sont quand même l'axe central du capitalisme. Il faudrait, pour le faire, il faudrait effectivement que le capitalisme, en gros, tout ce qu'on fait, tienne compte des externalités négatives. On ne tient pas compte de l'environnement. Donc on ne peut pas dire que le capitalisme peut effectivement être compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Il faudrait en prendre compte. La première mesure à prendre serait de donner un prix au CO2. Donc évidemment, tant qu'on ne prend pas compte de l'environnement, je ne crois pas que le capitalisme soit, disons, capable, dans l'état actuel, de régler ses problèmes environnementaux.
Je voudrais vous entendre, vous faire réagir sur cette tribune publiée dans l'Express par Laurent Alexandre, c'est cette semaine. Cet énarque entrepreneur écrit « Attention, les écologistes travaillent souvent en toute bonne foi à augmenter les émissions de CO2 et des particules fines, parce que si l'on ferme les centrales nucléaires, il faut rallumer les centrales à charbon. Les panneaux solaires, c'est bien, mais il y a le stockage de cette électricité qui n'est pas résolue, qui est coûteuse et qui reste grosso modo sous la coupe de la Chine. »
Donc, sous l'aspect nucléaire, il faut vraiment aller vers une société bas carbone, avec donc l'origine de l'énergie devrait être soit nucléaire, soit renouvelable. Disons qu'au niveau mondial, c'est clair qu'au niveau français, le nucléaire a une très belle place, hein, 80% de l'électricité, au moins 30% de l'énergie, ou un peu moins. Mais au niveau mondial, c'est clair que l'avenir, disons, c'est plutôt quand même le renouvelable si on se place au niveau mondial. Un des chiffres qui ressort des rapports du GIEC, c'est que le nucléaire au niveau mondial n'atteindra jamais au-delà de 10%, même si on le laissait se développer, disons, en toute liberté et même avec un soutien très fort. Donc je crois aussi qu'il faut garder, y compris en France, et c'est l'objectif de la loi sur la transition énergétique, un certain équilibre, disons, entre développement du nucléaire et bien sûr développement du renouvelable. Et si possible, le moins de combustibles fossiles à utiliser.
Jean-Louis Fournier, dans votre pièce, le CV de Dieu au Théâtre de la Pépinière, le Dieu que vous avez imaginé, le Dieu que vous avez créé, il est quand même soumis à la question parce que Bénureau, le DRH, lui dit « Mais dites donc, Dieu, vous avez peut-être fait des belles choses, mais vous avez aussi créé de sacrés dérèglements, des ouragans, des tempêtes, des tremblements de terre, des virus. Vous avez un casier judiciaire énorme avec aussi des feux de forêt que l'on a vu encore cet été. La terre... »
Il n'est pas net Dieu quand même, parce que
la terre ne tourne plus rond.
Dans son CV, tout ce qui est positif est écrit en gros caractères. C'est comme les promotions, vous savez, les exclusions. Et en minuscule est écrit les choses. Par exemple, il a écrit en gros les truffes, les morilles, les girolles, mais la manite phalloïde, comme par hasard, est pas dedans. Et alors, qui c'est il dit, le DRH lui dit, mais qui a fait la manite phalloïde? Alors Dieu, à ce moment-là, il dit, bah, écoute, je ne sais pas moi, il n'y avait personne, il n'y avait que vous. De toute façon, ça peut être que vous n'avez pas parlé du diable, c'était vous. Alors il dit, vous savez, j'ai fait tellement de choses, je ne me souviens plus très bien. C'est-à-dire, il n'est pas net Dieu toujours, hein, il est un petit peu faux-cul quand même.
Bon, j'ai pas le droit.
Il est mal pris parfois.
Est-ce que vous pourriez dire que, comme votre voisin Jean-Louis Fournier, que cette terre elle tourne de moins en moins bien?
Je pense que nous sommes, c'est ce que finalement disait Jean Jouzel et aussi le spécialiste de la communication.
Thierry Galoff.
Voilà, ce que vous venez de dire, c'est que il me semble que dans ce que vous dites, il y a une difficulté extrême de la situation présente. Nous avons à la fois une prise de conscience de plus en plus grande des nécessités de préserver la nature pour la survie même de l'humanité et pour les équilibres. Et puis, on voit bien que les leviers politiques, les leviers économiques sont en retard.
On va poursuivre cette discussion dans les informés avec vous quatre, la deuxième partie dans un instant, mais d'abord, la météo et l'info.
Si vous pensiez tout connaître de votre ville, redécouvrez-la avec la nouvelle Mini Rose Import. Projecteur full LED pour un style à l'épreuve de tous les regards. Mini Connected avec conciergerie pour découvrir la meilleure brasserie de la ville. GPS avec infotrafic en temps réel pour prendre de l'avance sur tous vos rendez-vous. Nouveau design, nouvelle technologie embarquée, nouvelle tendance, nouvelle Mini 3 ou 5 portes, à partir de 230€ par mois sans apport. Mini. Offre pour une Mini H3 portes 75 chevaux, 36 mois sans apport, entretien inclus. Valable jusqu'au 30 septembre, conditions sur mini.fr.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
France Info. On regarde la couleur du ciel avec vous, Jean-Michel Golinski, Météo France.
Un temps médiocre et perturbé demain sur une large partie nord du pays, avec des températures qui, comme aujourd'hui, se limiteront à 18 ou 20 degrés, tandis que plus au sud, sous un soleil rayonnant, la barre des 30 degrés sera souvent dépassée, avec par exemple 33 dans le golfe du Lion et dans la moyenne vallée du Rhône, 32 sur la Camargue, 31 à Toulon et 30 en Midi-Pyrénées. C'est par conséquent au nord de la Loire et des Charentes au quart nord-est que le parapluie sera indispensable, avec un vent turbulent sur les côtes et à signaler une petite amélioration en seconde partie de journée sur la Bretagne, la basse Normandie et les pays de la Loire, mais plus à l'est, entre le nord de la Seine, le centre et le nord-est, l'après-midi sera ponctué d'averses marquées, parfois d'orages, avec de fortes rafales l'après-midi entre 90 et 100 km à l'heure du nord au bassin parisien, puis en soirée de la Champagne à la frontière allemande.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Vous écoutez France Info à 20h30, l'info, Julien Langlais.
Nouvelle battue citoyenne aujourd'hui à Schiltigheim, près de Strasbourg, pour tenter de retrouver Sophie Le Tan, l'étudiante disparue depuis le 7 septembre, alors qu'elle avait rendez-vous pour visiter un appartement. Des membres de sa famille ont participé aux recherches aujourd'hui. Le principal suspect, déjà condamné pour viol dans le passé, a été mis en examen lundi pour l'enlèvement, la séquestration et l'assassinat de Sophie Le Tan. 400 personnes environ ont participé cet après-midi à Saint-Denis à une marche blanche en mémoire de Luigi, un adolescent de 16 ans tué lundi dernier dans une fusillade sur fond de rivalité entre cités. Parmi les manifestants, beaucoup de jeunes, les parents de l'adolescent étaient en tête de cortège. Les élus du Modem font leur rentrée à Guidel dans le Morbihan. Le parti centriste partenaire de la majorité tient son université de rentrée jusqu'à demain avec des revendications comme celle d'être plus écouté par les députés de la majorité ou encore la nécessité de mieux expliquer les réformes aux Français. Le président du Modem, François Bayrou, fera un discours demain à la mi-journée. L'ancien compagnon de route de François Bayrou au Modem, Jean Lassalle, ne veut pas perdre de temps. C'est rien de le dire. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il serait candidat à la présidentielle de 2022. Jean Lassalle.
On m'appelle la voix des sans-voix. Et c'est ça. La voix des sans-voix commence tranquillement son long chemin. La dernière fois, je m'y suis pris trop tard et je me suis fait assassiner politiquement. J'ai pris une tôle et je sais aussi que ce pays a besoin d'entendre d'autres voix. Et pour l'instant, je suis en train de voir si je suis en mesure de faire une liste européenne. Ensuite, je préparerai. Donc c'est une campagne au temps long, parce que sinon on arrive aux élections qui tombent sur le nez des citoyens au dernier moment avec une espèce de cavalcade où tantôt on met des œufs en scène, ensuite on les abat comme des chevaux. Et le citoyen n'a plus sa place là-dedans.
Voilà, Jean Lassalle, candidat à la présidentielle de 2022 et en attendant, tête de liste aux prochaines européennes avec son mouvement Résistons. Le vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier, a donné de la voix contre le chef de l'État aujourd'hui à l'occasion de la fête de la Violette qu'il organise chaque année dans le Loir-et-Cher. Il a notamment traité Emmanuel Macron de Madoff de la politique. Sans briller, Lille vient se frotter au tableau en Ligue 1 de football après sa quatrième victoire cet après-midi. 2-1 face à Nantes à l'occasion de la 6e journée. Les Lillois sont provisoirement 2e du classement. 5 matchs ont débuté à 20h. Un seul a vu un but. Il s'agit du match entre Saint-Étienne et Caen. Les Normands mènent 1-0 dans le Forez. Première défaite de la saison Ligue 2 pour le FC Metz, battu cet après-midi 2-1 sur le terrain du Paris FC. Les Parisiens sont 5e. Et puis première défaite de la saison en rugby également pour Clermont, battu 23-19 à Bordeaux dans le match d'ouverture de la 5e journée. Dans les autre match ce soir, victoire de Grenoble, La Rochelle et Toulon à 20h45, Racing face à Castres. Les informés, Pierre Neveu, 20h33 sur France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
La deuxième partie des informés sur France Info avec nos invités Jean-Louis Fournier. Sa pièce Le CV de Dieu est actuellement au théâtre de la Pépinière à Paris avec dans le rôle de Dieu Jean-François Balmer et à ses côtés Didier Bénureau. Sur ce plateau des informés, Roger Paul-Droit, vous publiez aux éditions Albin Michel et si Platon revenait, Jean Jouzel, climatologue, vice-président du GIEC à nos côtés et puis Thierry Véloff, le président de l'agence de communication. Welcome avant de revenir sur ces questions environnementales. On fait un nouveau détour par les terrains de Ligue 1 rapidement pour faire un point sur cette 6e journée des matchs. On commençait à 20h. Saint-Étienne Caen, Fabrice Hawkins.
1-0 pour le Stade Malherbe de Caen. Frappe de Faisal Farge à la 32e minute de jeu. Faute de main de Ruffier. On joue la 34e minute de jeu.
Et sur la rencontre Reims-Dijon, Florent Ferro.
Toujours 0-0 après 35 minutes de jeu. Reims qui pousse notamment par Pablo Chavarria, mais bien arrêté par Runarsson. Toujours 0-0 à Auguste Delaune.
Et sur les autres terrains, pas de but pour l'instant. On revient aux questions environnementales avec vous, Jean Jouzel. Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, déclarait récemment « Si nous ne changeons pas d'orientation d'ici à 2020, nous risquons des conséquences désastreuses pour les humains, pour les systèmes naturels qui nous soutiennent ».
Oui, c'est vraiment le diagnostic de la communauté scientifique déjà établi en 2007. En gros, en tout cas pour ce qui concerne la partie changement climatique, eh bien, l'idée est que si nous n'atteignons pas le pic d'émissions des gaz à effet de serre d'ici 2020, c'est-à-dire dans 2 ans, eh bien, il nous sera très difficile, sinon impossible, de respecter l'objectif de l'accord de Paris, c'est-à-dire limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport au pré-industriel, c'est-à-dire 1 degré supplémentaire par rapport à aujourd'hui. C'est cela l'urgence, il y a véritablement une urgence climatique et ensuite il faut non seulement avoir le pic d'émissions en 2020 mais diviser par 3 d'ici 2050 et neutralité carbone dans la deuxième partie de ce siècle. C'est un monde différent de celui d'aujourd'hui, c'est difficile effectivement.
Que dit l'expert lorsque Donald Trump déchire le traité de la COP21 à Paris?
Eh bien, ça m'a effectivement, démoralisé. J'étais très optimiste, je dirais, après l'accord de Paris. Cet accord de Paris est insuffisant, il faut en remonter l'ambition, mais on voit bien la difficulté que pose le retrait annoncé des États-Unis de l'accord de Paris. Eh bien, c'est qu'il va être impossible de demander aux autres pays de remonter l'ambition de l'accord de Paris alors que le deuxième pays émetteur est en train de quitter le bateau. C'est extrêmement difficile et ça va rendre l'accord de Paris, son application, beaucoup plus difficile qu'elle ne l'aurait été si les États-Unis avait été resté vraiment partie prenante et même, je dirais, leader de l'accord.
Alors, Roger Paul-Droit, ce qui me surprend en lisant votre livre, et si Platon revenait, il manque sur Terre, c'est que vous parlez de la politique, vous parlez d'Emmanuel Macron, on va y venir dans un instant, mais vous parlez de Donald Trump, et là, je vous cite, Donald Trump, premier président issu de la télé-réalité, incarne la fusion de l'écran et du pouvoir, il ne dialogue pas, il assène. C'est Platon qui parle ou c'est vous ?
Là, c'est moi, mais je m'inspire de ce que Platon dit d'un personnage dans le livre 1 de la République, Trasimaque, qui ressemble finalement beaucoup à Trump parce que il refuse le dialogue, il n'écoute pas les objections, il affirme, assène, Il est un peu gros aussi, assez colérique, assez rouge. Donc il y a des analogies, mais surtout il défend Trasimac ou Trump, tous les deux. Ils défendent cette idée que quand la politique est faite pour ceux qui gouvernent, et que ce sont ceux qui sont au levier de commande qui doivent, quel que soit le régime politique, gouverner dans leur intérêt et à leur profit. Or, cela ressemble étrangement, même si Trump n'est pas toujours aussi clair et net, mais à ce qu'il me semble défendre.
Thierry Velloff, l'homme de communication, l'homme de la télé-réalité qui devient le chef de la Maison-Blanche.
Je suis pas sûr que ça soit sous l'angle de communication qu'on peut entièrement l'analyser, mais c'est vrai qu'on voit un homme qui était effectivement derrière l'écran en permanence et qui d'un seul coup devient avec un pouvoir politique. Personnellement, moi, je suis assez effrayé de sa position, de la façon dont il avance, et je vois pas très bien comment est-ce qu'on va pouvoir un petit peu s'en sortir, même s'il y a, on entend tous les jours des informations sur des remises en cause de sa compétence. On a parlé tout à l'heure des États-Unis. Je voulais juste peut-être dire un mot, oui, la Californie a quand même fait une avancée, puisque la Californie veut aller au-delà de l'accord de Paris et montrer l'exemple. Donc, je crois qu'il ne faut pas mettre tous les États-Unis dans le même ensemble.
Jean-Louis Fournier, vous qui avez bien côtoyé Pierre Desproges, il en aurait dit quoi? Vous auriez écrit quoi sur Donald Trump?
Je voulais... pour moi, c'est... Trump, c'est Père Ubu, un peu. Je trouve que Jarry, c'est toujours les artistes sont toujours un peu des prophètes finalement. Ils inventent des personnages qui au départ sont dans un domaine idéal, mais on s'aperçoit que ces gens-là existent. Ouais, pour moi, c'est le Père Ubu. Le Père Ubu, c'est un personnage complètement étonnant. Il est corpulent. Oui,
moi, j'ai pas
non,
droit.
Vous n'êtes pas prêt. Vous trouvez pas que c'est...
Il y a quelque chose de cela, mais il y a en même temps le fait que ce Père Ubu était une star de la télévision avant d'être candidat. Et je crois que c'est ça. Oui. Il y a cette espèce de superposition entre une image publique. Il était dans cette émission de télé-réalité qu'il a créée, le patron, et il s'agissait pour les candidats de se faire embaucher chez lui. Et ça a duré des années, ça a eu énormément de succès, mais les gens l'ont toujours vu à la télévision, et c'est comme ça qu'il est devenu populaire, comme le boss, et pas comme un candidat.
Je vais vous faire parler dans quelques secondes du président Emmanuel Macron, vous en parlez dans votre livre, mais avant cela, à 20h40, l'info, le retour de l'info, c'est avec vous, Emmanuel Grabet.
Le président iranien Hassan Rouhani promet une réponse terrible après l'attaque d'un défilé militaire ce matin à Ahvaz, au sud-ouest du pays. Au moins 29 morts, dont des civils. Le groupe État islamique a immédiatement revendiqué l'attentat, revendiqué aussi dans la foulée par un groupe iranien d'opposition arabe. Pas de sport ce week-end sur l'île de la Réunion, pas de compétition. Toutes les manifestations ont été annulées. Week-end baptisé « Nos sports » pour protester contre la baisse du budget du ministère des Sports. Une pétition du comité olympique et sportif français qui réclame des moyens à la hauteur a recueilli en moins de deux jours près de 120 000 signatures. Moins de 15 jours après l'évacuation par les forces de l'ordre de la ZAD de Kolbsheim près de Strasbourg, une quinzaine de militants ont repris possession de la zone à défendre ce matin. Ils s'opposent à la construction d'une nouvelle autoroute à l'ouest de Strasbourg, un projet sur lequel la justice administrative doit se prononcer mardi. Les négociations avaient débuté dans les années 80. La Chine et le Vatican ont signé un accord historique ce matin. Le pape François va reconnaître 8 évêques, dont un à titre posthume, nommé par Pékin sans l'aval du Saint-Siège. Un premier pas vers l'unification de l'Église catholique dans ce pays, partagé entre l'Église officielle aux mains du régime communiste et une église clandestine qui ne répond qu'au pape. Et puis les basketteuses de l'équipe de France assurent pour leur entrée dans le mondial en ce moment en Espagne. Premier match de groupe, elles ont écrasé la Corée du Sud 89 à 58 avant d'affronter la Grèce demain.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Je retourne vers vous, j'ai pas le droit. Dans votre livre, et si Platon revenait, vous parlez d'Emmanuel Macron. Je vous cite, en découvrant Emmanuel Macron, Platon songe à Alcibiade, aristocrate athénien. Alcibiade est comme le président français, crédité d'une intelligence exceptionnelle, d'une ambition ardente et précoce. Le destin d'Alcibiade est le tragique. Il finit par jouer contre son camp, par trahir les siens en servant les Perses et meurt assassiné.
Oui, parce qu'il me semble, alors je ne connais pas la fin. On connaît la fin de l'histoire d'Alcibiade et bien évidemment pas celle d'Emmanuel Macron, mais il y a des points de ressemblance tout à fait frappants. Socrate a Alcibiade comme élève, qui est fasciné par son personnage, qui est fasciné par la philosophie, mais qui en même temps préfère la politique.
Vous avez dit en même temps, là, c'est une formule.
Voilà, mais en même temps préfère la politique, et qui est aussi, je crois, l'inventeur des grands coups de com' dans l'Athènes du 5e siècle. Ça existe déjà, puisqu'il y a une histoire tout à fait célèbre que nous rapporte Plutarque. C'est l'histoire du chien d'Alcibiade. Il avait, dit-on, un chien qu'il avait payé une fortune, un chien exceptionnel, rare et extrêmement coûteux. Et puis, il a coupé la queue de ce chien. Alors, évidemment, tout le monde dans Athènes ne parle que de cela. Qu'est-ce qu'a fait Alcibiade en coupant la queue de ce chien? Et ça occupe, évidemment, ça fait le buzz de l'époque, enfin la rumeur sur le marché de l'Agora. Et on va lui demander, et il dit « Ah, ben, pourquoi j'ai coupé la queue du chien? C'est de ça qu'il parle? Eh bien, il ne s'occupe pas d'autre chose. » Autrement dit, ces affaires politiques qui seraient peut-être plus embêtantes, la rumeur s'occupe de la queue du chien. Il a inventé la diversion, le fumigène. Enfin, je sais
et là,
pas
ça
que
intéresse
vous
le communiste d'y arriver, là.
Bien sûr, c'est une technique de diversion. Alors, je ne sais pas quelle diversion vous faites allusion là, actuellement, mais c'est une technique effectivement de communication. Quand quelque chose vous gêne, vous allumez un feu ailleurs pour arriver effectivement à pouvoir diluer, je dirais, l'attention du public.
On regarde ailleurs.
Oui. Ce que Platon écrit aussi, fait dire à Socrate, c'est à une quantité considérable de mensonges et de tromperies que nos dirigeants risquent de devoir recourir dans l'intérêt de ceux qui sont dirigés. Donc, visiblement, en politique, il faut mentir, il faut truquer.
C'est
la politique ?
C'est paradoxal. C'est paradoxal parce que, vous savez, Platon veut mettre la justice, la vérité, la philosophie au cœur et au centre du gouvernement.
Sa cité idéale.
C'est ça la cité idéale. Simplement, je crois qu'en même temps, et c'est ce que j'explique dans ce livre longuement, je crois qu'en même temps, il invente la matrice du totalitarisme. Qu'est-ce que ça veut dire, la matrice du totalitarisme? Parce que si vous gouvernez au nom de la vérité, alors vous pouvez, parce que vous êtes garanti d'être dans le vrai, tout vous permettre. Et on trouve chez Platon, dans cette cité idéale, des choses absolument terribles.
Qui vont donner naissance au communisme, au régime nazi, à tous les régimes totalitaires, selon
vous. Qui en tout cas, oui, alors je ne dis pas. Mais vous savez, les nazis n'ont pas cessé de citer Platon. Et il y a d'innombrables textes de militants nazis disant « Eh bien, ce que Platon a voulu faire, nous, hitlériens, nous le faisons. L'eugénisme, l'éducation collective, la parole du Führer. Bien sûr, je pense qu'ils se trompent, ils récupèrent Platon à leur profit. Mais s'il est récupérable, c'est qu'il y a bien quelque chose de ce côté-là.
Jean Jouzel, quand on est un expert comme vous, un scientifique, comment faire passer un message dans un monde de politique où tout est histoire de communication, de coûts de communication?
Oui, mais je préfère la sincérité. La sincérité dans les deux sens, c'est-à-dire la sincérité du politique vis-à-vis de son action. Et je pense que Emmanuel Macron était d'une certaine façon sincère, même si, disons, tout ce qu'il a promis n'est pas encore au rendez-vous. Mais il nous faut aussi, nous-mêmes, je crois, être assez transparents, sincères. Par exemple, bon, je me suis beaucoup impliqué dans le GIEC. Je n'y suis plus, j'étais vice-président du groupe scientifique, mais je me suis impliqué une vingtaine d'années. Notre credo, c'est vraiment la transparence et l'accès de celui qui le veut, celui qui le souhaite, à l'information. Et c'est ça qui, je crois, fait d'ailleurs, enfin me semble-t-il, la force du GIEC, le fait que ce diagnostic apporté par la communauté scientifique a pesé dans la décision politique. L'accord de Paris s'appuie complètement sur le 5e rapport du GIEC. Donc je suis dans les deux sens pour la sincérité maximale, je dirais.
Thierry Velov, communicant de l'agence Welcome.
La transparence est bien sûr une bonne chose. C'est l'excès de transparence, par contre, dont on peut réfléchir. On peut réfléchir parce que on ne peut pas tout dire. La sincérité me semble une valeur très forte. D'abord, c'est une quête personnelle, la sincérité. Mais la transparence, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire savoir. Parce que l'extrême de la transparence mène justement aux nazis. journalisme, parce qu'on veut tout savoir sur vous, on veut absolument tout connaître. Et j'ai une phrase pour ça, c'est je dis, si tous mes amis savaient ce que je pense d'eux, j'aurais plus aucun ami. Parce que bien sûr, je pense du bien d'eux, ça ne serait pas mes amis, mais je ne pense pas que du bien d'eux. Et puis, tous les jours, je ne vais pas leur dire. Donc, la transparence est une bonne chose, mais l'excès de transparence aussi pose problème.
J'aimerais qu'on parle aussi de, c'est ce que vous le dénoncez dans votre livre, Roger Paul-Droit. Et là, je vous interpelle, Jean-Louis Fournier. La génération 2.0, les adolescents, tout le monde est devant son écran, ne regarde plus la réalité, mais regarde la réalité à travers un écran de téléphone, de smartphone, d'ordinateur, d'une tablette. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est terrible. Avant, il y avait que le cinéma qui était sur les écrans. C'était une œuvre d'art. Et maintenant, on est en train de... On a l'impression que... Enfin, j'ai fait un truc dans un bouquin là-dessus en disant qu'il y avait des écrans partout et que les écrans faisaient un écran à la vraie vie et qu'on avait l'impression que la vraie vie n'existait plus. Mm-hmm. Et que maintenant, il n'existait plus que des traces de la vie sur des écrans. Et je trouve ça terrible.
Mais les écrans nous permettent de nous ouvrir au monde.
Non, pas du tout. Ils troublent tout. On sait trop de choses. Si. On est complètement noyés. Non, franchement. Moi, j'ai fait un bouquin qui s'appelle « Trop ». Je trouve qu'on a trop de tout maintenant. On est gavé, on a trop d'informations, on nous apprend trop de choses, et puis il n'y a pas le temps de décanter un peu les connaissances. Regardez un peu les étals des journaux qui plient sous le poids de tous les journaux que personne ne lit. Le nombre de bouquins qui sort, il sort, paraît-il, je crois bien, 200 bouquins par jour. Vous rendez compte.
Mais ça, c'est le trop qui pose problème. Vous avez raison.
Trop, c'est pas bien. C'est pas bien.
Vous savez, ça me fait penser à ce film, peut-être que vous avez vu, qui s'appelle Her, qui est où on est amoureux de son, le héros est amoureux de son système d'exploitation. Il y a une image dans ce film qui est assez incroyable, c'est qu'à un moment, on le voit donc en train de discuter avec son système d'exploitation, qui est sur son portable, et donc il est en train de parler avec, il le regarde en sortant du métro, et puis il y a un zoom arrière, et on voit que tout le monde fait la même chose en même temps, en train de regarder son. Je croyais que j'étais dans un film de science-fiction et je me suis rendu compte que c'est déjà le cas. Nous sommes tous devant nos écrans en permanence. C'est vrai que c'est un problème.
Roger Paul-Droit, vous parlez des nouveaux prisonniers de la caverne et vous dites, vous l'écrivez, nous sommes devenus avachis et bas du front.
Oui, parce que dans l'ensemble, c'est vrai. Si vous voulez, la caverne de Platon, qui est la matrice, le modèle finalement de toute la métaphysique occidentale, c'est quoi ? Je fais très court. C'est finalement une salle de cinéma, si je... rend ça contemporain, c'est des gens qui regardent un film depuis leur enfance et qui savent pas qu'ils sont au cinéma. Alors ils confondent l'écran et la réalité. Mais nous avons des cavernes portables, nous avons des écrans partout et nous n'en sortons plus.
Bon, on va continuer à débattre des écrans, du football aussi, parce qu'il y a de l'actualité football dans un instant. Avant cela, à 20h50, retour sur l'info avec vous, Emmanuel Grabé.
Un millier de personnes en soutien aux réfugiés et aux sans-abri, c'était cet après-midi sur les pavés de Nantes. Ils réclament un hébergement inconditionnel et décent pour tous. Manifestation deux jours après l'évacuation d'un square du centre-ville où 700 personnes avaient trouvé refuge. Un procès aux assises de la mi-janvier jusqu'à début février pour les deux policiers accusés d'avoir violé une touriste canadienne. C'était en 2014. Elle accuse les deux agents de 40 et 49 ans d'avoir abusé d'elle alors qu'elle était saoule au siège de la police judiciaire le 36 qui est des orfèvres. Le ministre des Affaires étrangères britannique Jeremy Hunt s'en prend ouvertement à l'Union européenne. Il accuse le président du Conseil européen Donald Tusk d'avoir insulté le peuple britannique. Il réclame également que Bruxelles négocie avec sérieux l'accord sur le Brexit. Allusion au refus en bloc jeudi soir du plan de la première ministre Theresa May sans proposition alternative pour le moment. Des actions pacifistes organisées aujourd'hui devant plusieurs boucheries en France. Une protestation des militants de la cause animale. Ils veulent dénoncer le zoocide, l'assassinat d'animaux que sont, selon eux, le commerce, l'élevage et la consommation de viande. Les bouchers du Nord, après la dégradation de plusieurs commerces ces derniers mois, ont engagé des vigiles privés pour assurer la sécurité de leurs enseignes. Et puis c'est du jamais vu depuis le début des relevés de température à cet endroit en 1882. Cela fait aujourd'hui 100 jours qu'il n'a pas gelé au sommet du pic de midi de Bigorre dans les Pyrénées, 2870 mètres d'altitude. Le précédent record était de 77 jours en 1999.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Allez, c'est maintenant une tradition dans ces informés de France Info. On va avoir quelques minutes pour terminer sur une note positive, un coup de cœur. Avant cela, on fait un rapide détour par les terrains de Ligue 1. C'est la mi-temps, sixième journée. Le match Saint-Étienne-Caen, Fabrice Hawkins.
Oui, un but à zéro pour Caen, but de Faisal Fajr à la 32e minute de jeu avec une faute de main de Stéphane Ruffier. Saint-Etienne domine, mais Saint-Etienne perd pour le moment.
Amiens mène sur la pelouse de Strasbourg un but à zéro. Montpellier mène face à Nice un but à zéro. 0-0 entre Toulouse, entre Angers et Toulouse à Amiens. Amiens reçoit Dijon, Florent Ferraud.
0-0 à la mi-temps entre les deux équipes. Un match peu emballant pour l'instant. Zéro tir cadré côté Dijonais, du côté de Reims. On a essayé de se procurer des occasions, notamment par Pablo Chavarria, mais bien stoppé par le gardien Runarsson du côté de Dijon. Et donc toujours ce score nul et vierge ici à Auguste Delon.
Allez, il nous reste quelques minutes dans ces informés pour votre coup de cœur. Je commence ce tour de table avec vous. Jean-Louis Fournier, vous avez choisi de nous parler de François Morel. Pourquoi?
À la chronique. Il fait, tous les vendredis, il fait une chronique.
Sur France
et
Inter.
Il a fait
55.
Vendredi, hier. Une chronique géniale.
Alors, je vous propose d'en écouter un petit extrait, tiens.
Jean Gorenhardt. Vladimir Yankelevitch, Misak Manouchian, Mehdi Sharef, Nabil Fekir, Kateb Yassid, Ridi Pan, Abdelatif Kechiche, Jamel Debbouze, Leïla Slimani, Samir Badja, Ahmed Merabé, Riyad Satouf, Barbet Schroeder, Absatou, si, vive la France, vive la France.
Quelle belle idée, hein? C'est d'une simplicité folle en plus.
Il a Alors, pas... on explique que c'est en réaction au propos d'Éric Zemmour qui demande à Absatou, si, de changer de prénom, voilà.
Et je crois qu'il y a un jingle, chaque fois il doit dire « Vive la France
oui. »,
et puis c'était cette espèce de litanie. Moi je trouve ça souvent super, je trouve que c'est une excellente idée.
Très
vraiment.
Simple.
Vous savez, tout, les belles idées sont des idées simples, de toute façon.
Jean Jouzel, un coup de cœur ?
Oui, un coup de cœur. Bon, 2 ans pour agir, c'est ce qu'a dit Antonio Guterres lundi dernier ou lundi de la semaine d'avant. Mais cette action, c'est... Bon, je souhaite terminer sur une note optimiste, qui est d'ailleurs celle de notre ouvrage avec Pierre Lahoutourou. Cette action reste possible pour lutter contre le réchauffement climatique. Et vraiment, avec Pierre, nous avons le souhait que cette action soit ancrée autour de l'Europe, que ce soit un projet européen au cœur du projet de l'Europe sur les années à venir. C'est vrai, il faut investir massivement, mais c'est possible et c'est cela aussi. C'est enthousiasmant pour les jeunes d'aujourd'hui parce que c'est synonyme d'inventivité, de recherche, vraiment, et je crois qu'il faut aller aussi de création d'emplois.
Roger Paul-Droit.
Un petit livre d'un philosophe qui s'appelle Pascal Chabot, et le titre de ce livre, c'est « L'homme qui voulait acheter le langage ». C'est un conte philosophique, une pièce qui a été jouée d'ailleurs, et dont, grosso modo, l'histoire est la suivante. Un ingénieur informatique invente un algorithme pour que, quand vous parlez à votre enceinte connectée, et que vous dites par exemple « Eh bien, j'aimerais passer une belle journée à la mer », c'est en fonction de vos choix, de votre budget, de votre âge, de votre profil, qu'on vous donne le programme précis de votre journée à la mer. Et il imagine évidemment que grâce à cela... Il va faire fortune, mais en plus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le langage ne servirait plus qu'à commander, qu'à consommer, qu'à acheter, qu'à avoir des, en quelque sorte, des actions sur le monde, et que ça en serait fini des autres usages des mots pour aimer, pour décrire, pour faire de la poésie. C'est donc un monde de cauchemar et heureusement, la pièce se termine un peu différemment.
L'homme qui voulait acheter le langage. Thierry Vélof.
Bon, alors, ça sera un petit peu d'autopromotion. J'ai demandé si j'avais le droit d'en parler, puisque Allez-y. J'ai lancé à la maison de la radio cette semaine, c'était mardi, on a lancé un observatoire du sens. Parce qu'en fait, tout le monde parle de sens. Créer du sens, produire du sens, donner du sens, faire sens. On n'arrête pas d'entendre parler de ça. Et alors, on s'est un peu posé la question de savoir si tout le monde, finalement, pensait la même chose. Derrière ce mot-là, on parlait du langage. Qu'est-ce qu'on pensait derrière le sens? Alors, bien sûr, effectivement, quand on fait cette étude, on a fait une étude avec l'Institut Via Voice, et on s'est rendu compte compte que tout le monde ne pensait pas la même chose dans le sens, et qu'il y avait des publics engagés qui étaient plus concernés par des responsabilités collectives et sociétales, des publics libéraux qui voient des objectifs un petit peu plus personnels, des objectifs enracinés qui parlent plus de patrimoine et d'identité locale, et puis des publics plus sceptiques qui, eux, sont plus distants avec la notion de sens. Et on s'est amusé, on a créé un petit auto-diagnostic du sens. Si vous voulez savoir si votre entreprise a du sens ou votre marque a du sens, vous allez sur le site Welcome, vous allez dans l'Observatoire du sens et vous pouvez vous faire votre auto-diagnostic pour savoir si votre marque a du sens.
Allez, je remercie nos informés. Ben, tiens, Thierry Velloff, président de l'agence Welcome. Je remercie notre climatologue Jean Jouzel. Je rappelle votre livre « Pour éviter le chaos climatique et financier, une solution scandaleusement simple » aux éditions Odile Jacob. Je remercie Roger Paul Droit. Et si Platon revenait aux éditions Albin Michel, je remercie également notre auteur du CV de Dieu, Jean-Louis Fournier, au Théâtre de la Pépinière à Paris, avec Jean-François Balmer et Didier Bénureau. À la réalisation ce soir, Hélène Ginestou, à l'édition Aude Lambert.